Un sol majeur.
Un sol majeur.
Impossible de bluffer Renée Kaplan, cette New-Yorkaise à Paris, sur notre degré de civilisation dans nos rapports au bureau ou sur notre prêt-à-porter dans nos conversations amoureuses. La mode a beau avoir les yeux d'Audrey Tautou et la culture, la chemise blanche, ouverte sur un thorax aussi réfléchi que celui de Bernard-Henri Lévy, aux yeux d'une américaine lambda, dans la vie de tous les jours, le français ne ressemble ni à une pub ni à un article de la Déclaration des droits de l'homme. Non mais attendez, écoutez, cliché pour cliché, vous, c'est vous qui êtes venu avec un dépliant touristique dans la tête, Renée Kaplan, franchement. Vous vous attendiez à rencontrer un BHL à chaque coin de rue?
Non, pas du tout. Mais en fait, ce que j'essaie aussi de faire dans le livre, c'est d'évoquer, peut-être démonter, les idées reçues des Américains, pas particulièrement cette américaine, des Français. Et donc l'Américain s'imagine une France d'un tel autre, cultivée... d'une sexualité bien développée, ouverte. Bon, la réalité, c'est...
Et on est des gros vulgaires, incultes...
Des gros vulgaires, non. Mais c'est-à-dire que ce que j'ai découvert, effectivement, à ma surprise, même moi qui plus ou moins ne m'attendais pas totalement à rencontrer BHL à tous les coins de rue, d'ailleurs, je m'en flatte, c'est que quand même, dans le lieu du travail, y a une démarche beaucoup plus primaire que je l'aurais imaginé. Et si je me suis permis d'analyser un petit peu ça, c'est parce que justement les Français, des Américains, se font l'idée justement de sauvageons, de barbares, de gens qui justement dans le lieu du travail, dans le culte du travail, connaissent aucune civilisation, aucune mesure, qui sont justement dans une démarche qui manque de civilisation. Et la réalité que j'ai trouvée, surtout dans une sorte de réunionnisme, d'apparence, cette sorte de culture, de grande déclaration, ça gueule hein, dans les rédactions en France, beaucoup plus que dans les rédactions aux États-Unis. Ça parle un peu pour s'écouter, souvent, ça fait des speeches, ça rit beaucoup. C'est pas du tout dans cette même démarche de problem solving que les Américains aiment tellement, c'est-à-dire on a un but, on y arrive, on a un problème, on le résout. On est un petit peu dans une démarche avant tout d'efficacité. Et en France, je pense que surtout dans une démarche de relationnel.
Oui. En France, c'est beaucoup de bruit pour rien, quoi. C'est ça que vous nous dites.
C'est pas toujours pour rien, mais c'est souvent beaucoup, beaucoup de bruit.
Alors, je remarque que vous parlez depuis presque une heure sans accent, et j'ai presque envie de dire, malheureusement, parce que vous connaissez notre péché mignon pour les accents ici en France, que vous savez tout de nous. Est-ce que ça veut dire aussi que vous pensez sans accent, c'est-à-dire que vous pensez, rêvez, aimez en français complètement?
C'est une très bonne question. Est-ce que je pense et que je rêve sans accent? J'aurais bien aimé penser, avant de revenir et vraiment de m'établir en France, que oui, que évidemment j'étais plus française que les Français. Et la réalité, c'est que quelque part, je me découvre, et il faut que j'assume, américaine. J'ai quelque part un centre américain, peut-être un extérieur qui est plus muable, qui en ce moment est français, très français, et que même en France, si je suis en France longtemps, je vais rêver en français, mais est-ce que je vais penser m'articuler en français tout le temps? Probablement pas, non.
Alors par contre, je voudrais savoir ce qu'il y a entre vous et une certaine Nina Simone, parce que quand même, alors j'ai regardé première concertiste classique noire aux États-Unis qui a un peu ramé hein, dans l'Amérique ségrégationniste des années 70, énormément. Oui. Cette chanson que vous avez choisie, My Baby Just Cares For Me, en fait, elle n'a été redécouverte que fin des années 80 grâce à une pub. Vous, grâce à qui ou grâce à quoi vous l'avez découverte, cette chanson?
Alors Nina Simone, c'est quand même une culture pour les Américains, même je connais mal, hein, relativement mal, le jazz, mais elle, c'est vraiment une sorte de figure farouche, une figure de femme intéressante, et les femmes farouches, intéressantes, qui ont ramé, me passionnent. Donc je pense que j'ai découvert ta chanson par hasard, et c'est une déclaration qui est bizarrement légère pour elle.
Don't
places. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Nina Simone sur RFI dans le MP3. Vous êtes MP3 ou pas?
Absolument.
Bon. De notre invité René Caplan, une fausse américaine qui a quand même le culte du travail et de la limonade en poudre. Donc, question en sol majeur.
À quel moment pensez-vous dans l'autre langue?
À quel moment vous pensez dans l'autre langue? C'était pas exactement la question que j'attendais, moi, mais c'est pas grave.
On va y répondre, parce que c'est une très bonne question, comme une qui rappelle l'autre. Je pense en anglais, pendant les moments d'émotion, ou de colère même, et où c'est quand même ma langue forte, et où je méprise le destin qui a fait que j'avais pas la même capacité d'exprimer une émotion forte dans les deux langues. Donc je me rabats sur l'anglais en moment peut-être de difficulté.
Bonne question et bonne réponse.
Imaginons un Big Bang numéro 2. Vous êtes le seul rescapé. Vous rencontrez une créature de l'espace que n'a jamais entendu parler de la France. Que lui dites-vous?
René Caplan.
À ce rescapé de la France, je lui dis bienvenue. Non, je pense que...
En quelle langue?
Bah, je pense que évidemment, il faudra le dire en français parce qu'on ne va pas mélanger les pinceaux tout au début. Non, je pense que la France reste assez inscrutable, mais avant tout, elle reste fière d'elle. Il y a un petit côté des fois neuneux, des fois excessif, mais des fois franchement emballant d'une forte identité, d'une fierté.
Donc même notre côté cocorico, vous ne le détestez pas?
Non, je trouve ça assez attendrissant en fin de compte.
Bon, la seule chose qui vous chagrine, vous, la forcenée du boulot, c'est notre manière de gérer le travail. On a parlé tout à l'heure rapidement des 35 heures, des RTT, des congés maladie. Vous observez chez les Français une maladie qui touche les névrosés de l'immobilisme. Vous n'y allez pas par le bout du pinceau. Et vous parlez même d'un symptôme d'une hypochondrie nationale.
Alors c'est une hypochondrie nationale qui effectivement porte aux soins, aux sursoins, on se choie, on se dort là. Là j'exagère évidemment, mais la réalité quand même assez étonnante, c'est qu'il y a une vraie sorte de culte de se soigner, de se reposer, de récupérer. Donc effectivement tout un vocabulaire qui n'est pas que le vocabulaire de vacances, qui est aussi le vocabulaire du quotidien, du médical, de la santé, qui effectivement est une valeur républicaine fondamentale.
Voilà. Donc on n'est pas sorti de la crise, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
On n'est pas sorti de la crise, mais en même temps, les États-Unis, elles en ont une aussi grande.
Non. Je suis américain, donc je travaille. Ça pourrait être la formule pour définir l'identité américaine. Ce serait quoi la formule pour l'identité française?
Je suis français, donc j'improvise, et surtout je...
Écoutez, c'est pas si mal, vous savez.
Ouais,
non,
ouais.
Non,
ouais,
je sais pas, ça fait très artiste.
Ça fait très artiste, et si le français est quelque chose, il est un peu flou quand même.
Ah. D'accord. Le gap, si vous me permettez ce mot, le plus important peut-être, ce qui vous a choqué en arrivant en France, c'est quand même vous en tant que jeune romantique, jeune sentimental, l'amour à la française. Alors messieurs, s'il vous plaît, il y a quand même une série de rules et de règles à respecter si vous ne voulez pas passer pour un gros dégoûtant aux yeux d'une belle américaine. Première règle, le dating. Voilà. Parlez même de catéchisme sentimental. Qu'est-ce que c'est?
Absolument. Les Américains aiment beaucoup les codes, ils aiment codifier. Parce que, comme je disais tout à l'heure, avec le culte du travail, c'est aussi une culte d'efficacité, même dans les relations sentimentales. Alors, le dating, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est la rencontre sentimentale, amoureuse, bien rythmée, bien définie. Une première rencontre qu'on sait déjà n'est pas juste amicale.
Vous écoutez?
Une deuxième rencontre qui pourrait peut-être porter un approfondissement, mais attention, il ne faut pas non plus sauter au lit parce que ça veut dire immédiatement l'arrêt de tout potentiel d'une relation. Ah, le troisième date, on peut déjà commencer peut-être à parler plus sérieusement, de consommer une certaine intimité. Et à partir du quatrième, par contre, si on n'a pas encore porté la chose dans le boudoir, c'est fini.
Bon, donc je résume, on est censé avoir dîné au moins trois fois ensemble et fait l'amour une fois avant de hasarder le moindre propos sentimental.
Hein. Absolument. Ouais.
Est-ce que vous faites partie du coup de, puisqu'on parle de catéchisme sentimental, René Kaplan, de ces Américains contaminés par un excès de religion, même dans les histoires de cul, pardon, de cœur?
Oh là là. Il faut dire que...
Ah, c'est pas dur de vous choquer. Hein.
Que mine de rien, me pense évidemment totalement... laïque, parce que même étant juive, je ne suis pas une juive religieuse ou pratiquante, j'estimais que je ne pratiquais pas cette religion en fin de compte qui est coincée, une religion qui en fin de compte porte peut-être à renoncer à des sentiments, à des surprises, et je me rendais compte par contre en arrivant en France que j'étais en plein dedans, que j'étais aussi religieuse que toutes les Américaines ou les New-Yorkaises type qui après 8-10 ans de dating à New York s'appuie sur ses règles comme un bréviaire en fin de compte. Mm-hmm.
Donc la main au panier, ça vous excite pas plus que ça?
La main au panier.
La main au panier, vous connaissez pas cette expression?
Ouais,
vous avez encore du travail, du chemin à faire dans notre culture. Alors à quelle période vous avez la main au panier? Petite main comme ça au cul.
D'accord.
Alors à quelle période de votre vie vous avez écouté le Velvet Underground? C'est quand même l'âme vénéneuse de John Cale et Lou Reed là qui sont en cause. Est-ce que c'est ça qui vous séduit?
Non, c'est pas ça qui me séduit, mais il faut dire que j'étais adolescente comme les autres. Et à l'époque, dans une adolescence, comme je disais, un petit peu dans un fin fond de l'État de New York, dans une petite ville de province, nous on s'imaginait Manhattan, on s'imaginait The Big City, et c'était Velvet Underground, c'était The Factory, c'était Andy Warhol, c'était tout ça.
Et vous rêviez de la main au panier. Stéphanie Says, Velvet, en train de savoir, Velvet Underground sur RFI.
She wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says, when answering the phone,
shall I say, is calling from across the world. But she's not
Says Velvet Underground en sol majeur sur RFI dans le programme de notre invité René Kaplan qui éprouve un petit plaisir narcissique en écoutant cette
oui,
chanson.
Oui, il faut que j'avoue, je m'appelle René Stéphanie.
Oh, René Kaplan, une ex-new-yorkaise qui a de l'avenir en France.
Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez meublé votre maison?
Alors, en tant que bonne franco-américaine, nomade, je meuble très mal mes maisons, surtout.
Nomade, ça va pas bien avec la première partie de la phrase, mais enfin...
Oui, enfin, c'est-à-dire que j'ai un peu vagabondé. Mm-hmm. J'ai jamais vraiment posé des racines, ni ici, ni là-bas. Et donc, là, je pose des racines, en fait, peut-être pour la première fois vraiment un peu sérieusement. Et ce que je fais surtout, c'est que j'évite le mauvais goût.
Vous évitez ?
Le mauvais goût.
Ah, voilà. Et alors, le mauvais goût international
Je meuble basique et simple, et surtout j'évite les choses. J'évite trop de choses.
Est-ce que vous sauriez nous définir la différence entre le mauvais goût français et le mauvais goût américain?
Oh, je pense que le mauvais goût, comme tout, est totalement relatif et autodéfini.
Ouais. C'est votre point de vue qui m'intéresse.
Oui, qu'est-ce que c'est que le mauvais goût? Le mauvais goût, c'est probablement quelque chose, justement, qui révèle trop. Qui se prononce trop. Éviter le mauvais goût, en fin de compte, c'est juste une manière de dire je suis un peu lâche, en fait. Mmh. Je fais des choix pas compliqués.
Donc, alors concrètement, ça veut dire quoi, le bon goût chez vous?
Ah, le bon goût chez moi. Pareil, c'est un peu relatif, je pense, dans le sens que le bon goût, on le reconnaît en le voyant.
Oui, mais alors du concret. Moi, je veux du concret.
Du concret.
Je suis un peu américaine, c'est vrai.
D'accord. Alors, le bon goût, par exemple, c'est peut-être mon nouveau parquet. Qui est un parquet gris, un peu blanchi, gris-souris, que je trouve très sympa. Vu qu'on est là-dedans, le bon goût pourrait être une petite table Indus que je convoite, mais que je vais probablement pas acheter. Moi, je pense que le bon goût, c'est ce qui est fidèle à soi-même. Hein. Mmh. C'est ça, le bon goût.
Est-ce que le bon goût dans ce petit home, de ce petit nid d'amour, c'est votre amoureux français, qui est en congé, forcément, qui cloue les étagères pendant que madame travaille, c'est ça?
Oh, il est un peu bosseur, un petit peu quand même, hein, on va le dire. Oui, le bon goût, c'est aussi quelque chose qu'on découvre chez l'autre et qu'on apprend à apprécier.
Alors, puisqu'on est at home, on va se faire une petite pause frigo. Je sais que vous avez quelques péchés mignons qui nous font hurler, hein, en France. Ah, oui. Par exemple, vous aimez bien manger un plat de macaroni accompagné de frites.
Ah, c'est une erreur grossière, ça. Ça, c'est le... Ah non, ça, c'est le stéréotype de l'américain.
Noir sur blanc dans l'ami américain.
Ah oui, c'est-à-dire que... Je me flatte d'ailleurs peut-être hypocritement de me distinguer un petit peu de l'américain. Lui, évidemment, moyen et moi non. Non, c'est vrai que l'Américain typique dans son brunch du samedi matin, il y a une grande mode de la bouffe rétro, donc le macaroni and cheese, avec un gros side, comme on appelle ça, une grosse assiette de frites, un peu molle, hein, bien huileuse. C'est vrai que ça se mange sans faim là-bas. Moi, j'ai d'autres péchés mignons.
Alors, par exemple
qui sont compliqués à expliquer aux Français, surtout à expliquer à l'amoureux qui voit arriver ces sortes
de. On n'est pas à la hauteur, hein.
Non, mais.
Visiblement, on ne peut pas comprendre.
C'est des petites boîtes de poudre jaune qui sont ma limonade américaine que j'importe. Je rajoute ma flotte et je bois.
Votre limonade en poudre, donc.
C'est ma limonade en poudre, hein. C'est peut-être votre Orangina, mais à ma manière, plus chimique.
Et ça vous suit dans tous vos voyages. Ça vous fait importer cette poudre magique.
S'il y a l'Américain qui vient me voir, même ma chère maman, ça ne débarque pas chez moi sans quelques boîtes de ma poudre jaune.
Pour vous, rentrer à la maison, c'est où ?
Rentrer à la maison, c'est rentrer chez mes proches, qui ne sont pas obligatoirement ma famille. Ayant beaucoup donc fait cet aller-retour, ayant quitté la maison propre de mes parents assez jeune, ayant tissé surtout des liens avec des amis, c'est un peu mon chez-moi chez eux. Et donc là, je reviens de quelques semaines de vacances, notamment à New York, et j'ai l'impression d'être retournée chez moi en retraçant un peu ces liens tissés pendant 10 ans à New York.
De retourner sur un passé.
C'est retourner sur un passé et c'est renouer les liens.
Mais votre présent et votre avenir, vous le voyez où alors ?
Oh, l'avenir, je ne regarde pas trop loin. Oh. Le présent est en France.
Attendez, heureux. Quand même, René Caplan. Heureux. Vieillir en France, ça, je pense que c'est un projet qui peut vous séduire.
Ah ouais, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a une sécurité sociale blindée.
Ça y est, hein, vous y goûtez.
Absolument.
À notre carte vitale.
Non, hein. Il y a carte vitale, il y a mutuelle. Il y a tout ce qu'il faut, c'est épatant.
Oui.
Oui, non, vieillir en France, je pense que c'est infiniment moins angoissant que vieillir aux États-Unis.
Ouais, et puis alors, il y a du bon dans l'amour à la française quand même, parce que vous avez découvert une chose très importante qu'on banalise totalement, nous, ici, à savoir qu'on peut cumuler deux statuts, celui de mère parfaite, de bonne maman, et celui d'amante experte.
Tout à fait. C'est-à-dire, à part le fait d'une sécurité sociale blindée, il y a aussi une appréciation, surtout chez la femme, je pense, pour l'âge, pour une femme mûre, pour une femme qui n'est peut-être pas a priori définie par sa jeunesse. Les Américains valorisent énormément le jeune, le nouveau, le frais. En France, c'est pas ce qui est a priori valorisé, ni valorisable en fin de compte. Et ce que j'adore, surtout quand je regarde autour de moi, au travail, dans la rue, les femmes de mon âge, qui sont plutôt fin trentaine, début quarantaine, c'est qu'elles sont hyper sexes, ces femmes.
Avec des poussettes.
Avec des poussettes qui sont aussi McLaren que les bobos de Brooklyn, mais qui sont peut-être une sexualité beaucoup plus assumée, beaucoup plus externalisée, une sexualité de femme, comme toutes les femmes, mais qu'aux États-Unis, fini. Ça se périme, ça se dilue, ça se voit moins. On échange un peu avec le McLaren, on perd un peu le côté femme fatale, le côté sexe.
Elle est pas belle la France.
En sol majeur @rfi.fr.
Merci René Caplan. Je vous laisse retrouver votre rédaction de France 24 là, parce que je regarde l'heure, ça fait quand même un petit moment que vous ne travaillez plus.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous publiez aux éditions du Toucan L'Amie américaine, chronique d'une New-Yorkaise à Paris. Music, pour refermer cet ensemble majeur avec The Queen, la reine, enfin la reine, attention.
Quand même,
un petit peu. Aretha Franklin, People Get Ready. Vous allez nous dire à quel moment de votre vie vous avez écouté ça ?
C'est une amie qui me l'a fait connaître, donc qui m'est très très chère. Et en fait, moi, je crois que c'est une chanson gospel. Et à la base, non, c'est une chanson écrite non par Aretha Franklin, mais à l'époque de la bataille des droits civiques. Et c'est une chanson qui porte à l'espoir d'un changement. Et rechanté par Rita, très gospel, très church, très hymne. Et c'est un hymne, mais plutôt à la liberté et au droit et à l'humanité qu'autre chose.
Donc on l'écoute en pensant à Obama ?
Tout à fait.
Et dans votre cœur ?
Absolument.
Merci René Caplan. See you soon.